Je dois faire des aveux. Oui, je suis infidèle à Radio X. Avant, je descendais dans voiture après l'émission à 10 heures. J'écoutais Ben Mulroney, mais là, Ben Mulroney a déménagé à 640 Toronto. Il anime maintenant le retour. Ça a été ma découverte média de l'an passé, puis je suis tellement content de lui parler ce matin. Ben Mulroney, allô, comment ça va?
Allô, ça va très, très bien. Je ne sais pas si tu sais, mais j'ai habité à Québec 4 ans. Quand j'ai fait mon bac en droit à Laval, j'habitais à la rue du Porche, dans la basse ville, tout près du fleuve. Donc, je suis très content de te parler ce matin.
Ah, et 4 ans que tu as aimé à Québec?
Ah oui, ben écoute, mon père voulait que j'habite à Sillery, mais je dis, écoute, s'il faut que j'étudie à Sillery, je veux habiter dans le vieux Québec. Et c'était vraiment une expérience incroyable, inoubliable.
J'ai beaucoup aimé, d'abord, tu permets qu'on se tutoie, c'est peut-être plus léger pour la conversation.
Oui.
Ben, j'ai beaucoup aimé le changement que tu as opéré dans les dernières années où tu étais davantage Entertainment Weekly à E-Talk.
Oui.
Et j'ai appris à découvrir un gars qui était non seulement extrêmement politisé, mais un gars de centre-droit réel avec... Puis tu fonces, tu y vas. Les critiques que tu as émises à l'endroit de Justin Trudeau l'année passée, c'était quand même musclé et envers Carney également. Puis je pense que tu gagnes à être connu. Puis je vais te poser la question. Es-tu optimiste par rapport au Canada, notre pays actuel, pour l'instant?
Je suis optimiste, mais je reconnais qu'il y a beaucoup de travail à faire. Et tu sais, au Canada, je pense qu'on est le seul pays au monde où on peut réélire 95 % des mêmes députés du parti qui faisait partie du gouvernement. Et on déclare que c'est un nouveau gouvernement avec des nouvelles priorités. C'est une élection de grands changements. Et c'est seulement au Canada où on pourrait décrire un tel résultat comme ça. Donc, je pense que Mark Carney, je respecte son intelligence, je respecte le fait qu'il s'est présenté en politique, ça demande de grands sacrifices, mais il a beaucoup de travail à faire et une grande partie de ce travail, c'est de reconnaître qu'il y a des idées, des lois et des réglementations qui ont été passées pendant 10 ans qui ont en grande partie détruit certaines institutions et la confiance d'un grand nombre de Canadiens dans ces institutions.
Ouais, c'est mon cas, assurément. Tu étais avec ton producer à la dernière convention à Calgary. Je t'ai écouté.
Oui.
Et tu as vu évidemment que Stephen Harper... a parlé. Stephen Harper a dit, grosso modo, ben, Poilievre et Carney, entendez-vous, faut s'unir, un gouvernement d'unité nationale, c'est un peu ça qu'il a dit, contre Trump, mais c'est un peu ça que ça voulait dire, contre la menace extérieure, face aux enjeux que présente Donald Trump de l'autre côté. Comment tu vois ça? J'ai l'impression qu'on est dans une nouvelle situation de gouvernement de coalition ou quasi-coalition à Ottawa, où là, Pierre Poilievre va être obligé d'être beaucoup en accord et souvent avec Carney face à Donald Trump, surtout qu'il y aura renégociation prochaine de l'accord de libre-échange. Oui. Comment tu vois ça?
Ben, je pense que tu viens d'identifier là où la coopération doit être très importante et c'est au sujet de cette renégociation. Mais quand il s'agit d'autres lois et d'autres projets de loi, ben c'est le rôle du chef de l'opposition et du parti en opposition d'opposer le gouvernement et de présenter des alternatives. Ce n'est pas son rôle de jouer comme d'être allié au gouvernement, sauf si dans ces situations, il s'allie au gouvernement parce que ils identifient dans ces projets de loi les valeurs de ceux qui ont voté pour les conservateurs. Donc c'est pas leur rôle de supporter le gouvernement, sauf s'ils reconnaissent que ces projets de loi respectent les valeurs du parti conservateur. Mais en ce qui concerne la renégociation de l'ALENA, ou comment ça s'appelle aujourd'hui, absolument, je pense qu'on doit présenter comme on doit être l'équipe Canada.
Oui, unie. Comment tu vois ça, négocier avec Donald Trump? Moi, je pense que Doug Ford a fait certaines erreurs. Moi, je pense que c'est pas un premier ministre provincial de se manifester au gouvernement, de faire des publicités. À un moment donné, il y a 10 provinces, là. On ne se commettra pas, à un moment donné, épiler dans les plates-bandes du national. Mais comment, toi, tu mènerais cette négociation-là? Ta perception et ta stratégie, Ben Maroney?
Non, je pense que Mark Carney, il doit présenter comme l'adulte dans la chambre, regarder tout ce qu'on a accompli ensemble et reconnaître que Donald Trump, c'est un gars qui va changer d'avis plusieurs fois. On voit ce qu'il fait au sujet du pont Gordie Howe en 2017. Il pensait que c'était c'était un projet incroyable et aujourd'hui il a un problème avec ça. Même chose avec l'ALENA. Il a signé, c'est lui qui a renégocié ce deal et tout à coup il arrive de nouveau à Washington. Il a un problème avec le deal que lui-même il a renégocié et signé. Donc je pense que le rôle de Monsieur Carney doit être l'adulte dans la chambre qui reconnaît l'histoire, la coopération entre nos deux pays, le succès qu'on a eu ensemble en tant que partenaire économique et parler à plus de gens que juste à Monsieur Trump. Tu sais, il doit parler aux membres du Congrès américain, à la communauté du business aux États-Unis. Et trouver des alliés parmi ces communautés, parce que ces gens vont parler ultimement au président et sans doute ça va influencer ses décisions.
Toi, Ben Maroney, comment tu te vois dans les prochaines années? Là, tu es un broadcaster, tu as l'air aimé ça, tu animes le retour maintenant à Toronto. Est-ce que un jour tu vas te présenter dans un comté pour être député?
Non, ça ne m'intéresse pas. Le fédéral ne m'intéresse pas.
Pourquoi, Ben?
Je ne sais pas. Ça demande un sacrifice, ça demande un désir. Je n'ai pas ce désir en moi. Par contre, j'ai un désir peut-être un jour de me présenter, de me lancer en politique municipale ici à Toronto. J'aime bien l'idée de peut-être me présenter un jour comme maire de Toronto, mais ce jour n'est pas aujourd'hui.
C'est une primaire.
Non, j'en ai parlé un peu, mais c'est pas aujourd'hui, c'est surtout pas demain. J'aime bien ce que je fais, je suis en train de bâtir quelque chose, je pense, assez important en radio et comme podcast. Donc, pour l'instant, ma priorité, c'est vraiment de développer la communauté autour de mon show ici à Toronto peut-être un jour, mais ce jour n'est pas aujourd'hui.
Parle-moi des villes canadiennes, parce que tu parles beaucoup d'Olivia Char. Bon, il y a comme une collection de maires de gauche qui ont l'air à se ficher éperdument de la qualité des services. L'important pour eux autres, c'est l'écologie, c'est les pistes cyclables, c'est d'enlever des parkings, c'est d'enlever la place aux voitures. Il y a une guerre. Il y a une vendetta contre l'automobiliste. On le voit à Toronto, Montréal, on le voit à Québec. Comment tu perçois ça? Qu'est-ce qui est en train d'arriver dans nos villes canadiennes? Puis on le voit à Toronto, les services sont médiocres à Toronto. Là.
Oui, bien, je pense que ce qui s'est passé, c'est que les politiciens de gauche et les gens qui organisent pour les partis politiques de gauche, je pense qu'ils ont réalisé, surtout à Toronto, qu'ils vont... Le NPD, ils vont jamais gagner une élection fédérale. Et au provincial, c'est rare. Ils vont peut-être devenir l'opposition officielle. Donc, depuis, je pense, quelques décennies, ils ont décidé d'infiltrer et de se présenter du côté administratif municipal. Et donc, on a à Toronto, on a des armées de gauchistes qui sont en plein contrôle de l'administration de la ville. Et donc, ils savent comment organiser, ils savent comment gagner des élections. Et en plus de ça, les jeunes, les adhérents de ce volet politique, ils sont très bien impliqués, passionnés de la politique municipale. Donc, à chaque fois qu'il y a une élection, ils se présentent pour voter.
Mais comment réveiller la droite, Ben, à ce moment-là?
Ben, je pense que ça se passe maintenant. Je pense, c'est mon sentiment, j'ai aucune preuve là-dessus. Mais je dirais que la majorité des gens de Toronto, ils regardent ce qui s'est passé à la ville et ils se disent, écoute, si je me lève pas du sofa pour aller voter, on va avoir les mêmes problèmes, on va avoir les mêmes députés au municipal, le même maire, la même mairesse. Et pour cette raison, je pense que les gens du centre, on n'a même pas besoin de parler de la droite, mais les gens du centre,
oui,
les gens qui, pour eux, c'est tout ce qu'ils veulent faire. Ils veulent se lever, aller au travail, retourner chez eux, payer leurs impôts et avoir une belle vie avec leur famille et leurs amis. Et ils voient ce qui s'est passé à leur ville. Et je pense que pour la première fois, il me semble qu'il y a une motivation parmi ceux qui votent rarement au municipal. Ils sont activés pour la première fois.
Parce qu'il y a beaucoup de taxes, pas beaucoup de services. Les pires gaffes du régime de Chau, par exemple, à Toronto, parce que ça ressemble beaucoup à ce qu'on vit à Montréal, aussi avec Valérie Plante, ce qu'on a vécu.
Oui.
C'est quoi?
Oui.
Comment tu pourrais résumer ça, donc, le régime de gauche à Toronto?
Bien, c'est une idéologie qui leur permet pas de voir le résultat de leur programme. De certains côtés, c'est des désastres quand on parle des pistes cyclables ou notre relation très libérale avec la drogue, la consommation,
oui,
de la drogue,
oui,
dans le public. C'est fou. Ils ne voient pas combien ça nous a coûté comme une ville. Et tout ce qu'il dit simplement, oh, je suis simplement les scientifiques, je fais ce qu'ils me disent. Mais non, il y a aucun scientifique qui va te dire que la politique de la gauche nous a mené à ce désastre de santé publique quand on parle de la consommation de la drogue a été positive pour la société. Mais parce qu'ils ont une telle idéologie, ils ne peuvent pas voir le résultat, le désastre qu'ils ont créé.
Oui, je sais. Dernière question, Mme Tlassé. Je sais que tu as de l'ouvrage ce matin, évidemment, avec ta famille aussi. Mais dernière question. Est-ce qu'un jour, on verra ça, à un moment donné, Doug Ford serrer la main à Poilievre pour que Poilievre puisse être premier ministre? Ça ne marche pas. Moi, je vois ça de l'extérieur. Il est premier ministre de la plus grosse province. C'est un conservateur.
Ouais.
Il est en chicane contre Poilievre. Puis, il tire dans les goals de Poilievre. Il va toujours serrer la main de Carney. Ça marche pas. Comment tu vois ça, Ben, ouais, en terminant?
Honnêtement, je sais pas. Je sais pas. Je vois... C'est peut-être parce que... Peut-être que M. Ford veut un jour se présenter à la chefferie du Parti fédéral conservateur. Je sais pas. Je sais pas.
Penses-tu que c'est sérieux, ça? Il parle pas un mot de français?
Non... Mais, oh, oui, ça serait pas un atout pour lui, c'est vrai. Mais d'après moi, tu sais, j'en ai parlé un peu à la radio il y a quelques semaines, que les Québécois, ils sont très patients avec une personne comme moi qui, mon maniement du français, parce que j'en parle rarement ici à Toronto.
Oui, tu parles pas de français, bon, te remercie.
C'est pas parfait, mais les Québécois, ils aiment ceux qui tentent de leur parler dans leur propre langue.
Oui.
Et donc, il y a une patience parmi les Québécois que je respecte et j'admire. Mais donc, ce qu'ils veulent, d'après moi, c'est quelqu'un qui comprend la condition québécoise.
Est-ce que Poilievre réussit?
Je ne sais pas. Ça va dépendre. Et à chaque fois que je pense que les conservateurs vont avoir du succès au Québec, à la dernière minute, il y a quelque chose, ils décident de présenter un projet ou une idée qui est l'antithèse des priorités des Québécois. Tu sais, Monsieur Harper, il y a une année, juste avant les élections, je pense qu'il avait une idée. Le parti a présenté une idée de couper des fonds pour des services culturels. Et tout d'un coup, les Québécois ont décidé non, on n'aime pas ça. Même chose dans la prochaine élection avec, en anglais, on appelait ça le snitch line en ce qui concernait les. Ils voulaient avoir un appel. Tu pouvais faire un appel téléphonique
pour dénoncer. Qu'il
y avait. Oui, pour dénoncer qui que ce soit pour des crimes culturels. Donc, c'est possible, c'est absolument possible, mais il faut avoir une équipe qui reconnaît que les valeurs au Québec, les priorités des Québécois ne sont pas nécessairement exactement les mêmes que dans d'autres parties
du pays. Il me semble que ta sœur comprendrait ça.
Je pense que oui. Dans sa capacité de ministre des Affaires francophones en Ontario.
Mais Caroline au national, ça serait extraordinaire.
Moi, je pense que oui aussi, mais écoute, elle a passé 8 ans en politique, c'est déjà beaucoup. Et si Caroline décide qu'un jour, elle va. Sa carrière en politique va finir, que ça soit qu'elle se lance au fédéral ou non, c'est sa décision. Elle a déjà donné beaucoup, beaucoup de soi.
Et je comprends que tu es très prudent là, à cet égard-là. Hey, bonne émission. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Ça a été un grand plaisir. Bon show.
Merci beaucoup. À la prochaine.
Salut. Bye-bye. Ben Mulroney parle jamais français. Donc, c'est sûr que des fois, il hésite, là.
Ben oui.
Mais il parle jamais français, mais il a fait son cours ici. Il est bilingue de par son père et sa mère aussi, là.
On est le peuple le moins bilingue, peut-être au monde, puis on est les plus sévères avec ceux qui essaient de parler notre langue.
C'est ça. Ceux qui critiquent, parlent d'un anglais, vois.
Ouais, c'est ça.
Envoyez-nous un texto vocal, on va le passer en
langue. C'est ça.
Non, je l'adore. Il y a un Christy de bon show. Là, je suis en train de déculoter d'EA. Je ne veux pas à toi. C'est pas la même gamme. C'est pas la même game. C'est un show qui est très municipal aussi, là. Puis, je vous le dis, j'ai découvert ce gars-là. C'est un gars qui roule. J'adore ses opinions. Mm-hmm. Et il ne gêne pas pour critiquer Poilievre. Je ne gêne pas pour critiquer Harper. Je ne gêne pas pour critiquer Ford. Et très certainement pas. Ciao. Je ne savais pas qu'il voulait se présenter maire de Toronto. Je viens d'apprendre ça. Là.
Moi aussi. Je suis un peu déçu. Pardon. Je suis content pour les gens de Toronto. Mais... Ouais.
Non, c'est une superstar. Ça. Pour vrai, là. Le gars est une superstar. Là. Et il n'y en a pas beaucoup au Canada. Là. OK?